Soyez les bienvenus sur RCM. C'est l'heure de retrouver Alain Jeanne pour votre émission Chut, on écoute la télé. Le talk show radio sur RCM, votre radio au cœur de la Nouvelle-Aquitaine.
Chut, on écoute la télé avec votre espace culturel Leclerc de Barbezieux, votre référence culturelle en Sud-Charente.
Chut, on écoute la télé avec Langélis, votre maître artisan glacier en Charente-Maritime, élu saveur de l'année 2018. Vos points de vente en Charente-Maritime sur langélis.com. Vente sur place également à fond couverte.
Et merci de nous rejoindre pour Chut, on écoute la télé, l'hebdo sur RCM, des équipes de films, des comédiens, des chanteurs et bien d'autres pour cette heure que l'on démarre ensemble maintenant. Alors c'est parti pour le sommaire.
Chut, on écoute la télé,
le talk show radio.
Et voilà, je suis très heureux de vous retrouver pour une toute nouvelle émission inédite de Chut, on écoute la télé en ce lundi 13 juillet, à la veille de la sortie du film Divorce Club, le nouveau film de Michael Youn. C'est une grande spéciale qu'on va vous proposer aujourd'hui avec, d'une seconde à l'autre, eh bien, l'arrivée d'Arnaud Ducré et Michael Youn. Se succéderont également Caroline Anglade et Cartman dans cette émission pour fêter tous ensemble, eh bien, la sortie de ce film qui va, eh bien, être vraiment la comédie de l'été à ne pas rater. Nous aurons le plaisir également, bien, de vous faire partager des vacances camping paradis. Le savez-vous, 12 campings aujourd'hui en France vous proposent des vacances aux couleurs du camping paradis. Olivier Lacheneau, eh bien, le concepteur de cette chaîne de camping, justement, nous dira tout à l'heure. Et puis en fin d'émission, cap pour les gourmands. Vous savez, depuis le début de l'été, on met en avant les producteurs régionaux. Et direction la Bretagne avec Bruno Morin qui nous dira tout sur Marie Morin et ses fameux desserts. Voilà pour le sommaire de cette émission. On démarre, si vous le voulez bien, donc tout de suite notre spécial Divorce Club. C'est parti, on ne perd pas de temps.
Le coup de cœur ciné de la semaine.
Allez, coup de cœur cinéma aujourd'hui qui va être joyeux, hein, je pense, consacré au film Divorce Club, qui en est, eh bien, super heureux puisqu'on va recevoir toute une partie de l'équipe dans l'émission. Caroline Anglade et Cartman vont nous rejoindre dans quelques minutes. Mais on va commencer en beauté avec Michael Youn et Arnaud Ducré. Bonjour à tous les deux.
Bonjour. Oui, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être là, Michael. Quel film extraordinaire. Avant même qu'il sorte, on l'a déjà vu deux fois et on prend toujours autant de plaisir à le voir.
C'est super. On est effectivement très très content et le public adore le film. Le public rigole, il est conquis et ça dure depuis l'Alpe d'Huez où on a pris deux récompenses. Bah c'est super parce qu'une comédie qui fait rire et qui fait vraiment rire, ça veut dire qu'on est au rendez-vous.
Alors moi je t'ai trouvé complètement abasourdi par la situation à l'Alpe d'Huez. Qu'est-ce que ça te fait quand carrément la presse te remet un prix ? Le prix de la presse. Je t'ai trouvé complètement ahuri par la situation.
J'étais effectivement un petit peu surpris. J'ai pas l'habitude de prendre des récompenses. J'étais d'abord sur la presse, j'ai été surpris. Et puis après sur le Grand Prix, là, j'ai été ému. C'est super, mais ça dure le temps des roses. C'est-à-dire que voilà, c'est déjà passé. Je suis ravi d'avoir pris ces récompenses. Elles sont chez moi sur la bibliothèque. Mais la véritable récompense, c'est le public qui vient. C'est le public qu'on a vu en tournée province, qui est au rendez-vous, qui rigole et qui nous dit merci de nous apporter 1h48 de bonheur. Et c'est pour ça qu'on fait ce métier. C'est pas pour les récompenses.
Alors Arnaud, tu déploies une énergie incroyable dans ce film. Moi, je dis, t'aurais même mérité le prix d'interprétation masculine là-bas.
Je t'en remercie. Non, c'est gentil. Comme dit mon agent, c'est plus un film, c'est une bande démo. Avec tout ce qui m'arrive dans ce film. Non, c'était. C'est pour ça que je l'ai accepté d'ailleurs. C'est le parcours de ce personnage qui va démarrer s'effondrant et qui petit à petit va essayer de remonter la pente avec plein de péripéties. Ça, c'était pour moi, mais totalement jouissif à faire. Quoi.
Qui a eu l'idée de ce Divorce Club, de l'histoire?
C'est un alignement de planètes, on va dire. C'était une envie de la part du producteur et distributeur. Et puis, c'est bien tombé dans ma vie. Ils avaient envie de faire un film sur la séparation, sur le divorce, sur se faire larguer, sur se retrouver tout seul comme une vieille chaussette. Et puis moi, en l'occurrence, dans ma vie, à ce moment-là, j'étais tout seul comme une vieille chaussette. Et donc, on a écrit ça avec mes deux auteurs que j'aime beaucoup, qui s'appellent les Matt Alexander. On a écrit ça assez vite. En fait, pour vous dire, on a écrit ça... plus vite que d'habitude, janvier, février, mars, avril, ouais, je pense qu'on a écrit ça en 3-4 mois. On a tout de suite très vite rebondi sur des expériences personnelles, des anecdotes de potes. Il y a plein de choses qui sont nourries par nos existences à nous. Et puis, quand on a fait des lectures avec Arnaud est venu aussi avec ses propositions. Enfin, il y a... Quand on parle d'un sujet aussi personnel et aussi à la fois universel que se faire larguer, forcément, il y a tout le monde a quelque chose à raconter là-dessus.
Arnaud, quand t'as lu justement le scénario la première fois, là tu t'es dit quoi? Il va m'arriver une foule de choses. C'est jouissif à jouer ça.
Alors déjà, pour être très clair, quand mon agent m'appelle, il me dit voilà, écoute, il y a un film là qui s'appelle c'était Divorce Club à l'époque encore. Ouais, Divorce Club. C'est Michael Youn qui réalise. Ah, on se connaissait pas avec Mika. On s'était croisés de temps en temps sur des émissions, mais bon, pas plus que ça. Mais on savait qui, voilà. Mais pas plus que ça. Alors là, je dis ah ok, vas-y, ça m'intéresse. Donc je le lis. Et là, effectivement, je trouve le film drôle, bien équilibré, les personnages. Et puis, il y avait des choses qui partaient. Le Lémurien, par exemple, ses idées me font énormément rire. Moi, j'adore, je trouve ça drôle.
Moi, je suis déjà fan de Michel.
Bah voilà, Michel le Lémurien. Je crois qu'il a fini dans la drogue, là, après le film. Là. Si le film marche, je crois qu'on l'a retrouvé en boîte de nuit, là, en train de se taper de la coke dans les chiottes. Et c'est comme le mec de Les yeux sont tombés sur la tête. Là. Le mec, il a pété un câble. Ouais, il a pété un câble. Donc voilà. Et non, c'était... Je peux pas vous dire mieux que quand je lis le truc, j'étais pas à la base, c'était peut-être pour le rôle que joue François-Xavier, le rôle de Patrick. Sybille me dit bon, c'est ce rôle-là, rencontre quand même Mika et voit, et je dis, j'avais déjà dit à mon agent, je l'ai pas dit à Mika, mais j'avais déjà dit à mon agent, si je ne fais pas le rôle de Ben Catala, je ne ferai pas le film. Et voilà. Et donc il s'est avéré que je tombe sur Michael. C'est là pour le coup, ça m'a donné une petite puce à l'oreille. Je me suis dit tiens, je vais sûrement bien entendre avec lui. C'est que sans que je dise quoi que ce soit, tout de suite Mika me dit tu sais Arnaud, moi je pense que tu devrais faire le rôle de Ben Catala. Donc là je me suis dit ok, bon bah voilà, j'ai pas besoin de le persuader. Il était plutôt dans cette optique. Donc là c'était pour moi je me suis dit faut y aller quoi.
Maintenant je me souviens.
Parce que donc c'est oui bien sûr, mais c'est ça a été par rapport à la rencontre avec Arnaud. Moi je suis plutôt un animal, j'ai besoin de sentir les gens. Tout le reste est très abstrait pour moi, un texto, un coup de téléphone, un agent qui dit tiens, qu'est-ce que t'en penses, tout ça c'est trop abstrait. Moi j'ai vraiment besoin de sentir les gens. Et donc on se voit avec Arnaud, on se sent, ça match tout de suite et je lui dis tu sais quoi, je pense que tu serais vachement mieux dans le rôle principal de Ben Catala. Et maintenant que je l'analyse a posteriori, c'est mignon parce qu'Arnaud m'a fait ouais ah ouais ça pourrait être cool. Ouais. Bah écoute, je vais le relire comme ça. Alors que dans sa tête, il devait être en train de faire yes, yes, yes.
C'est ça. Et quand
ben c'est vrai parce que quand je suis sorti du rendez-vous, je dis putain, il m'a proposé de faire le rôle que je voulais. J'ai appelé Sybille, mon agent. C'est bon. Et donc j'ai appelé Sybille direct, mon agent. Et là, Sybille, elle m'a dit bah putain, j'ai voilà, on s'est compris. Il m'a passé celui qui veut que je fasse. Donc putain, c'est bon, à moins que la prod veuille pas, mais je pense que voilà quoi.
Surtout maintenant que je connais Arnaud, je sais très bien que c'est pas du tout un Arnaud, c'est pas un mec mesuré quoi. C'est pas un gars qui dit écoute, je vais réfléchir, y a pas de problème, on s'en reparle. C'est un mec qui fait yes, voilà, je savais. Donc c'est pas. Donc ça veut dire qu'il était très 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 content et qu'il voulait pas que ça se sente, et ça c'est bon, bah c'est normal, c'est parce qu'on essaye tous, tu vois, de maintenir un petit peu nos émotions. C'est, on fait un métier qui est vraiment trop basé parfois sur l'image qu'on a de nous, et on devrait de temps en temps se lâcher un petit peu plus et
monter. Et je me souviens sur ces vacances là parce que j'étais au ski avec mon fils à Flaine, je me souviens que on m'avait proposé un autre film de Jotéré le nom, mais qui était vraiment pas bien quoi, avec gros budget et tout, mais qui était vraiment pas bien.
Le même qu'on m'a proposé moi aussi.
Toi aussi ouais. Et je me suis dit non, je ne veux pas faire ce film. J'étais vraiment déçu parce que quand on propose un truc, tu vois, tu peux partir à l'étranger en plus tourner. Enfin bon, toutes les.
Tu as fait toi du coup Miguel ou pas?
Non. Non, on ne pouvait pas aller en Guadeloupe.
Le réalisateur, il était un peu dégoûté, mais je crois qu'il l'a proposé à tout le monde. Hein. Il y a, je crois, Samina Seri dessus. Il l'a proposé à Joey Star. Il l'a proposé. C'est les gros coins. Ouais. Gérard Depardieu.
Vous avez refusé des vacances All Inclusive carrément?
Voilà, exact. On a refusé ça. Et derrière j'ai le scénario qui arrive, qui est le scénario que me propose Michael. Et là je dis oh putain, ouais, ça me donne très envie. Et donc voilà.
C'est difficile de réussir une comédie, de vraiment réussir une comédie, c'est-à-dire de dire au spectateur voilà, je vais vous raconter une histoire qui va vous faire mourir de rire. Et vous sortez de la salle et vous dites tiens, il m'a pas menti, il m'a raconté une histoire qui m'a fait mourir de rire.
Tu as déjà fait avec Fatal, hein. T'as réussi à un énorme coup déjà avec Fatal. Donc moi j'avais pas beaucoup de doutes quand même.
Mais c'est pas facile. Et quand tu analyses sur une année de cinéma, il y a pas beaucoup de comédies. Et alors là je suis même pas en comédie française, je suis en comédie tout court. Il y a pas beaucoup de comédies qui réussissent dans l'année ce pari-là. Il doit y en avoir, je sais pas, 4-5 sur. Je sais pas, il y a 14 films qui sortent par semaine. Vous multipliez par 52 semaines. Je vous laisse faire le calcul chez vous. Voilà, sur, on va dire, en gros, on va un peu amenuiser ça. Il y a 500 comédies qui sortent dans l'année. Il y en a 3-4 qui réussissent on va dire 5. C'est-à-dire, 1%. C'est vraiment, vraiment difficile. Et ça veut pas dire que les autres sont des peintres. C'est que c'est vraiment difficile d'écrire des trucs. Parce que l'humour, il y a rien de plus personnel. Ce qui te fait rire toi me fait pas forcément rire moi et réciproquement. C'est pour ça d'ailleurs qu'aujourd'hui, vous vous rendez compte que dans l'univers des humoristes, t'as un comique pour chaque goût. Alors moi, je suis chinois, donc je veux rire avec les Chinois. T'as un comique chinois. Moi, je suis juif et je suis né au mois de septembre et je fume des cigarettes. T'as un mec qui est juif, qui est né au mois de septembre et qui fait de l'humour sur les clopes. C'est devenu de l'humour de niche, quoi. Parce que chacun, moi, je veux rire avec le racisme. Moi, je veux rire contre le racisme. Moi, je veux rire avec le sida. Enfin, on s'en sort plus, quoi. Pardon, excusez-moi si vous êtes choqués, peut-être j'ai choisi des exemples un peu extrêmes. Mais, donc c'est difficile à la fois de réussir à rassembler le plus grand nombre tout en restant authentique et tout en flirtant avec les limites. Parce que l'humour, c'est quand même aller flirter avec la limite sans la dépasser. Et c'est ce que je crois, et même maintenant je peux vous dire, je suis sûr qu'on a réussi avec Divorce Club, parce que on est dans Divorce Club, il y a un humour qui est moderne, sans être méchant, sans être malveillant, mais voilà, on y va. C'est par exemple, je sais pas si Arnaud veut qu'on parle de ça, mais c'est tout à son honneur. On fait une lecture ensemble, et il y avait la scène de, voilà, il arrive et il se retrouve à poil devant, en gros, ses beaux-parents, les beaux-parents enfin, les parents de Frédéric Bell qu'il a rencontré la veille. En gros, Frédéric Bell est une folle, et après un soir où ils ont couché ensemble, elle pense qu'ils vont se marier, donc elle ramène ses parents dès le lendemain matin. Et lui, quand il se réveille, il pense qu'il va aller boire un café avec elle, et boum, il débarque dans la cuisine et ses beaux-parents sont là. Voilà, le personnage était nu. Et je dis, bon, évidemment, détends-toi Arnaud, tu vois, je te filme par derrière, on verra tes fesses. Il dit, mais viens, on y va, quoi. Viens, on est moderne, on y va, et puis on voit aussi le devant. Et puis à ce moment-là, je lui dis, bah, je sais plus comment ça s'est fait, mais t'as ton téléphone, tu te cacheras avec. Ouais. C'est rigolo d'imaginer un gros téléphone et puis tu te caches avec, etc. On essaye de se challenger. C'est ça, l'humour, c'est se challenger en permanence. Et c'est pour ça que on fait pas aujourd'hui, en 2020, le même humour que Michel Leeb il y a 30 ans. Et ça veut pas dire que Michel Leeb, c'est condamnable, même si, effectivement, il y a ce fameux sketch dont tout le monde a parlé, etc. Bref. Mais on essaye, l'humour avance, l'humour devient plus moderne, l'humour devient plus efficace, il s'adapte à son époque. C'est vraiment le reflet d'une époque, l'humour. Et Divorce Club est en plein dans son époque.
On va suivre Ben Catala, évidemment, car moi je conseille à personne de vivre un divorce comme celui-là, puisque là c'est vraiment un divorce catastrophique que vous allez pouvoir suivre dans ce film. Et je vous en propose tout de suite, eh bien, d'écouter la bande-annonce.
Divorce Club, c'est demain dans les salles.
Je me souviens de Ben, mon mari.
Ma femme m'a quitté pour son patron.
Bonjour.
Lors d'une réception, ils avaient gardé les micros branchés.
Oui.
Tout le monde l'a entendu se faire
démonter.
Il y a toujours pire. Et Ben, c'est le pire.
T'as plus rien.
Ta vie, c'était ton couple. Et croisant mon expérience, tu vas perdre tous tes amis aussi.
Ne m'appelle plus, hein. C'est pas parce que t'es en train de sombrer que tu dois m'entraîner avec toi. Sois pas égoïste.
On va se consoler ensemble. Je m'ennuie dans ma grande baraque.
Dis-moi que t'as pas envie de vivre ici.
Même Nelson Mandela, il a divorcé. Le gars, il passe la moitié de sa vie dans les prisons sud-africaines. Il tient. Il passe 6 mois en couple. J'en peux plus, j'y arrive pas. Il divorce.
Je vais pas faire semblant d'aller bien. Je vais pas bien.
Ben fait sa boudeuse. Écoute-moi bien. T'es tombé de cheval, ça arrive au meilleur. Mais il faut que tu te remettes en selle directe, sinon tu feras du poney toute ta vie. Bref. Non, je regardais. Ma meilleure amie, prof de MMA.
Oh, incroyable ça.
Lisa ! Elle est devenue très protectrice depuis mon divorce.
Bah, je vois ça.
Allez, on va marquer une petite pause. Divorce Club, notre spécial, ça revient dans un instant. Mickaël Lyon, Arnaud Ducresson, nos invités. Alors ne bougez pas, on revient tout de suite les garçons. Je compte sur vous restez avec moi.
Bah, de toute façon, on a envie de rester avec toi.
Ouais, très envie.
Alors c'est parti.
Bouge pas, bouge pas. Chut, on écoute la télé, revient dans un instant. À tout de suite.
On est vraiment bien sans
I just haven't met you yet. Chut, on écoute la télé. Chut, on écoute la télé, le talk show radio. Le coup de cœur ciné de la semaine.
Allez, notre spécial Divorce Club continue dans Chut, on écoute la télé. De retour avec Arnaud Ducret, Mickaël Lyon, Caroline Anglade et Cartman vont nous rejoindre également dans quelques instants. Mickaël, toile de fond Marseille. Pourquoi t'as choisi Marseille pour tourner?
Marseille, on a tourné aussi une grande partie dans la région de Toulon, une petite partie aussi à Aix et une toute petite partie à Paris pour des histoires économiques. Mais c'est parce que la lumière qu'on a en Provence, on l'a nulle part ailleurs en France. Je suis désolé, hein, ami charentais et ami de l'Ouest. Mais voilà, la plus belle lumière de France est limite d'Europe. Il y en a une très très belle aussi, par exemple à Ibiza ou en Grèce. Mais la lumière de Marseille, elle est magnifique. Elle se rapproche de celle qu'on peut trouver à Los Angeles. Et je comprends pas qu'il n'y ait pas encore un gros ponte de du cinéma. Alors je crois que Luc Besson a essayé. Il faudrait qu'on crée notre entre guillemets notre Hollywood en Provence, quoi, parce que il y a tous les décors possibles et imaginables. On peut trouver de la ville, on peut trouver de la campagne, on peut trouver de la mer, on peut trouver aussi un truc plus populaire avec les quartiers. Enfin, il y a beaucoup de choses à faire. Et moi, dès que je peux, je vais tourner là-bas, tout en étant d'ailleurs supporter du Paris Saint-Germain, ce qui est pas toujours évident pour mon intégrité physique. Moi, je fais du cinéma pour faire voyager les gens. Et je vais au cinéma en tant que spectateur pour voyager. Il y a plein de films que je vais pas voir, même si c'est des films excellents, parce que je sais que ça va me ramener une réalité trop douloureuse, trop française. Et j'ai envie de me changer les idées quand je vais au ciné, et donc c'est évidemment ce que j'ai envie de faire. Et pour ça, bah, j'ai pas envie de faire un film qui se passe à Paris. Je préfère faire un film où voilà, on va voir du soleil, du ciel bleu, de la mer, des belles baraques, des beaux acteurs et des belles actrices.
Pour nous, les acteurs aussi, c'est très agréable, quoi.
T'as découvert la maison dans laquelle vous faites de la colocation finalement, avec François-Xavier de Maison. Première fois, tu vois cette sublime maison qui est dans le Var, hein, je crois.
Ouais, on était, elle est magnifique d'une part, mais on se croit en Italie. Mais en revanche, d'ailleurs, petit clin d'œil à toute la déco qui a fait un travail extraordinaire dans cette baraque. C'est Ricky ou la Belleville la maison, quoi. Donc voilà, ils ont vraiment bien bossé. Et c'était à l'image de la maison de Michael.
C'est vrai que chez moi c'est un peu Ricky, ça, aussi la Belleville chez moi. Oui, j'ai un côté en enfant qui collectionne les jeux vidéo, les arcades, les machins. Alors pour la petite anecdote, cette maison a été vendue depuis 18 millions d'euros. Et elle était tellement belle, et on avait des petits problèmes économiques pour pouvoir se la payer, etc. Et moi j'ai dit, mais vous savez quoi, plutôt que nous loger à l'hôtel, logez-nous dans la maison, ça va être super de vivre là-dedans. Et le propriétaire de la baraque a fait, ah, non, vous venez tourner dedans, mais à partir du moment où le tournage est terminé, il y a plus personne dans la maison, personne ne mange dans la maison, personne ne se baigne si vous baignez pas dans la Seine. On avait le droit de faire que ce qui était marqué dans le scénar. On n'avait même pas le droit.
Vu les 11 commandements, c'est pas possible.
J'imagine, ouais.
Arnaud, quelle a été la scène la plus drôle pour toi à tourner?
Une des, voilà, il y en avait tellement de drôles, mais bon, j'ai un petit plus pour le mec bourré. Qui fait un peu en plus écho avec mon spectacle, mais voilà, ça c'était quand je l'avais lu, j'avais très envie de la jouer, et quand je vois comment le public rigole, et ça c'était une de mes premières surprises, c'était d'entendre dans le public, de que quand on vient aux avant-premières et que des fois on reste un peu dans le fond de la salle pour écouter, on entend ce que j'appelle les rires de one man, c'est-à-dire que les gens se marrent et n'écoutent même plus la réplique qu'il peut y avoir, c'est ils se marrent et des gens pleurent de rire, et ça c'est pour moi c'est le plus beau cadeau, quoi. Et donc j'imaginais cette scène, je la voulais très drôle et elle l'est. Donc ça, j'en suis vraiment extrêmement fier. Mais alors après, il y a plein de choses. Me revoir en bourré en bagnole, faire « Eh merde !» Ce « Eh merde !» là, il me fait hurler de rire. Enfin, voilà, bon...
C'est les figures sur les flashs, moi, qui me fait beaucoup rire aussi.
Alors ça fait très égocentrique, mais bon, quand on réussit un film, faut aussi en profiter, quoi, parce que c'est pas toujours comme ça. Donc ce film est réussi, et ce que j'ai lu, je l'avais visualisé. Je le dis souvent, mais ça me fait plaisir parce que je me dis que je sais lire les scénarios. Et en plus, Michael a sublimé encore plus le film, quoi. Donc là,
le film est meilleur que le scénario, ouais. Parce que heureusement, ça veut dire que les acteurs ont amené quelque chose, et que moi j'aime préparer les scènes, j'aime préparer le tournage, et puis j'aime aussi parfois dire, attends, tu sais quoi, on va aussi se laisser inspirer par ce qui se passe. C'est-à-dire, ce qui se passe, c'est ce qu'on va fabriquer avec les acteurs. Parfois, les acteurs viennent avec des propositions, tout en respectant le texte de la scène, t'amènent quelque chose de mieux, de plus vivant, de plus organique que ce que t'avais couché sur ton papier. Et puis aussi, il faut s'inspirer de l'endroit, se dire, tiens, finalement, la scène, c'est pas ça, voilà, regardez ton décor. Il faut... C'est Lelouch, Claude, qui dit ça très bien. Il dit, le scénario, c'est pour les jours où je suis pas en forme. Oh, voilà. Quand j'ai entendu cette phrase, j'ai fait, mais le mec a tout compris. Donc tu peux aussi le laisser dans un coin. Alors moi, j'aime bien aussi, quand on s'appuie sur le texte, parce qu'on s'est suffisamment embêté à écrire des répliques drôles et à faire en sorte que la scène soit bien agencée pour que les acteurs le respectent. Mais si un acteur trouve mieux, propose mieux, mais moi, j'ai pas d'ego là-dessus, puisqu'à la fin, il y aura marqué un film de Michael Youn, hein, je m'en fiche. L'important, c'est que le spectateur, lui, s'éclate.
Alors, Claudia Tagbo, petite participation, mais mémorable. Vous allez voir dans le film, extraordinaire, hein. Elle t'en fait voir un peu.
C'est
ah oui, le costume est mémorable.
C'est ma femme, mais je vais pas trop vous divulgacher. C'est comme ça qu'on dit spoiler en français. Je vais pas trop vous divulgacher ce qui se passe, mais disons que je suis un mari un petit peu tyrannisé par sa femme, et je suis surtout un mec qui a envie d'aller niquer ailleurs, quoi. Voilà, tout simplement.
Voilà, dans ce Divorce Club, beau casting, Audrey Fleurot, Grégoire Bonnet, que vous adorez évidemment aussi, dans Scène de Ménage.
Charlotte Gabry, qu'on n'oublie pas, il y a Cartman qui va venir dans un instant, Caroline Anglade,
Vincent Desagna, quand même, Carlito et McFly.
McFly, Carlito, enfin, Jarry, il y a un casting.
Benjamin Biolay qui passait par là, hein. C'est parce qu'on tournait juste devant son studio, puis il a dit, salut les gars, qu'est-ce que vous faites? Je m'ennuie un peu, là.
Ornella Fleury, enfin, on a un casting hétéroclite et...
Michel Lemurien, ouais. Qu'on embrasse.
Il nage bien, hein, d'ailleurs, Michel. Vous verrez, hein, dans le film. Bon, pour toi, quelle a été la scène la plus drôle à écrire sur le papier? Et au tournage, Michael, tu te dis, putain, celle-là, on va en chier.
Bah, notamment tout ce qui touche au Lémurien, c'est très facile et très drôle à écrire. Bah, le Lémurien met des baffes à Arnaud, le Lémurien plonge dans la piscine et ensuite se bat avec Arnaud. Puis à un moment, bah, faut la tourner, la scène de bagarre entre un être humain et un animal sous l'eau qui, donc tu peux pas mettre évidemment un Lémurien sous l'eau. Donc on a eu des c'est toujours la même chose avec moi. Je suis un garçon assez sanguin, quoi. Il y a des engueulades avec la prod parce que moi je voulais évidemment construire un animal en 3D pour que Arnaud puisse se battre dans la piscine. Il s'avère que ça n'a pas été ça. Et là ça a été vraiment. Faut pas qu'Arnaud pense que je lui fais des compliments parce qu'il est à côté de moi, mais c'est juste parce que c'est sincère. Arnaud a sauvé tellement de scènes dans le film par son talent et par sa créativité et surtout son côté. Ok. Il y a pas de ah ouais mais d'ailleurs j'en ai parlé à Charlotte Gabry. Charlotte, elle commence n'importe quelle scène en disant non. Tu dis alors ça dans la scène, tu vois, t'arrives, tu fais comme ça, elle fait ah non parce que ça c'est pas possible. Et puis finalement elle fait tout le tour et elle revient. Arnaud c'est exactement l'inverse. Tu lui proposes un truc, il fait ok. Et après il essaye de s'organiser dans sa tête et dans son corps pour savoir comment est-ce qu'il va le faire. Et donc quand tu dois tourner sous l'eau une scène de bagarre entre un homme et un lémurien, bon bah t'as intérêt à ce que voilà l'homme et envie, en l'occurrence l'acteur Arnaud, ait envie d'aller dans la bonne direction et qu'il ait envie de faire en sorte que ce soit possible. Parce que c'est très facile de dire, mais mec, c'est ridicule ce que je fais là. Mais non, ça marche pas. Et Arnaud, il y est allé à fond. Je vais pas vous dévoiler tous les secrets du tournage parce que j'ai envie que vous vous amusiez d'abord avec cette scène. Mais voilà, Arnaud, il s'est battu pour deux, quoi.
Truc de fou. C'est par exemple, tu sais, quand tu prends la patte et que tu te fais la griffure sur le visage, ça c'est inestimable. Quand un acteur vous fait ces propositions là. Et qui continue prise après prise à vous proposer quelque chose de différent et de créatif, c'est des diamants et il y en a pas 40 et ces mecs-là, faut les choyer. Et les projets Arnaud, c'est aussi ce très beau film sur la vie de Grégory Le Marchal où tu joues le rôle de Pierre.
Voilà, Pierre Le Marchal sur la vie de Grégory Le Marchal c'est un biopic avec un élan de vie incroyable qu'était ce gamin et comment les parents ont traité la mucoviscidose qui n'était pas très connue et comment ils ont fait le sol s'effondre et ils se disent comment faire quoi. Et après ce que ce gamin est devenu et nous a tous fait rêver avec cette voix extraordinaire. Je suis très fier avec Odile Villemain, entre autres, voilà, et Michael Lumière qui joue le rôle de Grégory qui est formidable.
Exactement, j'espère qu'on va le voir très vite. Pour TF1, toi Michael, c'est un autre Grégory, c'est l'affaire Villemain.
Ouais, si vous appelez Grégory, quand même faites attention aux gens qui vous entourent. Non, c'est un mauvais jeu de mots. Un autre Grégory Villemain, l'affaire qui a secoué non seulement l'Est de la France, la Vologne, il y a maintenant quasiment 40 ans, mais toute la France. J'ai été très content qu'on me propose ce projet. Je joue le rôle de Jean-Michel Bézina, qui est un petit peu l'enfoiré de cette histoire, qui était le journaliste un peu sensationnel, profondément selon moi malveillant, qui a mis le verre dans la pomme et qui a fait que la France s'est posé la question, à savoir est-ce que c'est pas elle qui aurait tué son propre fils. Donc je suis un peu le personnage le plus sale de tout ce casting, un casting extraordinaire, Michel Villermoz, Guillaume de Tonquédec, Laurence Arnay, Laurence Tocqueur, Gérard Jugnot, Guillaume Gouix, enfin voilà. Dominique Blanc, un casting vraiment de rêve. Et c'est un peu l'affaire Dreyfus de la fin du XXe siècle, quoi. On a tous eu un avis sur la question. On a tous un jour, étant parents, on s'est posé la question, comment est-ce que j'aurais réagi dans cette situation? On a tous pensé à un moment, est-ce que c'est La Roche? Est-ce que c'est Villemain? Est-ce que c'est la femme? Est-ce qu'ils sont plusieurs? Voilà. Et cette mini-série en 6 épisodes, Une affaire française, porte très bien son titre. Ça va être l'événement 2021 pour TF1 et je suis très fier d'y participer.
Premier numéro du Morning Night. Je sais qu'il y en a déjà un deuxième de tournée qu'on verra bientôt sur M6.
Eh ben oui, ouais, super. Tellement content de retrouver la télévision, tellement content de retrouver le public. Et puis tellement content de proposer le même esprit à un autre horaire et de façon à la fois similaire.
Et avec plus de budget, t'es plus dans une cabine de douche là.
On a plus de budget, mais vous avez vu, on a toujours un humour de bout de ficelle. Sauf que là, on a été rejoint par plein de copains. Merci d'ailleurs Arnaud, hein, d'avoir
avec voulu... grand plaisir.
D'avoir voulu participer à cette aventure bien débile. Prochain numéro bientôt avec d'autres invités de fou, puisqu'on aura Jamel Debbouze, Big Flo et Oli, Isabelle Nanty, Jennifer et Jarry. On va bien bien rigoler avec Vincent Dezagna, Benjamin Morgan, Tom Villa et Charlotte Gabry qu'on embrasse.
Et bien voilà, le rendez-vous est pris. On va se requitter avec un petit extrait de Divorce Club, le temps pour Caroline Anglade de venir nous rejoindre. Je vous souhaite plein de succès les garçons.
Merci.
Et merci les amis.
C'est le Divorce Club.
T'as bu ou quoi?
Bingo! Ouais, j'ai bu, parce que c'est mon ami. Alors les copains m'ont fait une surprise.
Il y a un truc qu'il faut pas toucher. Ma Ferrari 250 GTO.
Oh merde!
Mais le frein à main! Le frein à main! Non! Ah,
je vais aller sur le petit coin, je vais acheter la même, à l'identique.
Je tape bien Hubert.
Oh, ça, je peux le faire tout seul. Hubert hein.
Allez, on va continuer à parler de Divorce Club. Hein. Ça sort mercredi dans les salles. Vous savez, c'est notre coup de cœur ciné cette semaine avec Caroline Anglade maintenant qui nous rejoint. Bonjour Caroline.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Toujours un plaisir de t'avoir. Et là, un joli rôle dans Divorce Club. Peut-être le plus gros rôle féminin même, hein, finalement.
Bah écoute, oui, hein, des... bon, après on est une super communauté de femmes hein, là-dedans, avec Audrey Fleurot, Charlotte Gabry, Ornella Fleury, mais c'est vrai que c'est le rôle romantique en fait, hein, et un très beau rôle, non, c'est vraiment une très belle partition, en tout cas, Mickaël là, m'a offert un rôle, un des plus importants que j'ai eu au cinéma, je pense, après le film de Franck Dubosc, donc je suis ravie de le défendre.
Et peut-être celui qui donne le moins envie de divorcer finalement.
Oui,
ton rôle.
Exact. Non, c'est vrai, c'est joli de le souligner parce que c'est vrai que c'est un peu la caution romantique du film. C'est pour ça que j'étais contente parce que c'est tellement une grosse comédie, comme on les aime, la comédie popcorn et tout, que j'étais contente d'avoir la partie voilà romantique du film, douceur et en même temps ça n'empêche que c'est une femme forte, moderne, de caractère, qui sait où elle va, qui est issue d'un divorce aussi, donc elle sait ce qu'elle veut plus. Et du coup, elle défend aussi ses envies, ses intérêts, ses désirs, quoi, de femme.
Charlotte qui nous a fait beaucoup rire aussi. Cette Gisèle,
ma meilleure amie. Déjà, je l'adore dans la vie, donc jouer avec elle, c'était vraiment génial. Et elle est monumentale, quoi. Elle veut me protéger, en fait. Elle veut me protéger. Donc, du coup, elle est très 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 méfiante de ceux qui m'approchent et elle voit au départ d'un très mauvais œil ma relation avec Arnaud, mon personnage. Donc elle voilà, elle surveille la bête
et elle la surveille bien.
Et elle la surveille bien et faut pas l'approcher de trop près.
Quelle était la scène la plus marrante pour toi à tourner sur ce film? Parce que on connaît le Michael Youn un peu fou. Ouais. Et à la fois si un film de Michael Youn, il y a pas une piscine où tout le monde se jette dedans, ça va pas. Et mais à la fois les gens connaissent peut-être pas aussi le côté rigoureux, le côté bosseur, le côté professionnel que peut avoir Michael, surtout en tant que réalisateur en plus.
Alors on a beaucoup ri parce que il fallait, comme dit Michael, c'est vrai que pour garder la comédie, le rythme de la comédie, dès le matin, on s'ambiançait. Mais c'était aussi une façon de se concentrer et de rester dans le rythme effréné de la comédie. Mais cela dit, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de la concentration, de la rigueur et tout ça. Et Mika est très rigoureux. Il a tout écrit. D'ailleurs, il y a très peu d'impro. On part pas dans tous les sens. C'est très cadré. Parce que pour aller aussi loin dans la comédie, pour que les gars puissent aller aussi loin et dans l'ivresse et dans la folie, et ben, il faut pas qu'ils soient ivres et il faut pas qu'on fasse la fête le soir. Donc c'est un tournage qui est resté quand même très,
sage.
Sage. Et vraiment. Et voilà. On peut pas être aussi fou dans un film si on l'est aussi dans la vie, sinon on tient pas la route. Et, une des scènes pour moi les plus drôles, il y en a eu plein, mais une des scènes les plus drôles à tourner pour moi, ça a été surtout celle où j'étais un peu spectateur d'Arnaud et ce qu'il a fait. C'est dans la scène où il est un peu bourré,
sans au restaurant.
Il est au restaurant. Et là, c'est un peu le paroxysme du film. Et là, de rien que de le voir jouer, de voir à quel point il allait crescendo dans l'ivresse et tout, c'était jouissif à voir, quoi. Vraiment.
Comment t'arrives à garder ton sérieux quand c'est comme ça, quand tu vois Arnaud, moi, j'ai vu le film avant tout le monde. Alors, évidemment, voilà, je vais pas vous spoiler les choses, mais quand tu vois dans l'état et où il pousse le curseur hyper ouais. loin, comment toi et Charlotte, vous arrivez à garder ouais. votre calme et visage un peu fermé? Bah, parce qu'évidemment, le personnage doit être déçu de ça.
Sur le plateau, on était mort de rire. Et en même temps, je me suis dit, là, si tu veux qu'on avance et que Arnaud n'ait pas à refaire les prises 47 fois, vu l'investissement qu'il y met, il faut à un moment donné garder absolument son sérieux et surtout, je voulais pas lui faire rater une prise, quoi. Donc à un moment donné, obligé de se mettre dans le personnage, de vraiment penser à la situation, un mec que je kiffe qui arrive comme ça,
voilà. Un état comme ça.
Un état, voilà. Je me suis dit là, il faut que je reste vraiment focus sur ce qu'elle vit, sur ce que vit le personnage pour pas flancher parce que il faut tenir face à lui, voilà. Mais on a essayé de garder de la rigueur là parce que c'était tellement éprouvant pour lui. Qu'on a essayé d'être respectueux aussi de son travail, quoi, à ce moment-là.
Et mercredi, c'est Divorce Club qui sort au cinéma. Allez le voir, vous allez vraiment beaucoup rire.
Courez-y pour rigoler.
Et on va tout de suite se requitter avec un extrait.
Non, je regardais...
Salut, toi.
Salut.
C'est le Divorce Club.
Réveille-toi, Ben, t'es célibataire maintenant. Y'a plus personne pour t'engueuler quand tu t'amuses.
C'est qui?
Alors là, je suis pas peu heureux parce que, évidemment, je suis ultra fan. Ultra fan depuis des années. Je l'ai suivi sur ses tournées de rond-point avec Coé à Nantes. J'ai évidemment suivi l'époque de la méthode Coé, Sébastien Patoche. C'est, pour moi, c'est une idole. Quand il pète, il trouve son slip. Et il est avec nous. C'est Cartman qui est notre invité. Bonjour, Cartman.
Bonjour, comment ça va?
Ça va très très bien. Moi, je suis très heureux de t'avoir. Tu es à l'affiche de Divorce Club. Une belle aventure cinématographique. Ouais. Là, ça y est, on peut dire que Cartman a pris son envol. Seul, sans Miko, ce coup-là.
Ouais, c'est vrai que j'ai un peu lâché mon copain Miko, mais parce que voilà, on a chacun un peu maintenant nos projets. Miko, il a continué à faire beaucoup de radio aussi et à faire de la télévision avec Coé. Et puis moi, c'est vrai que j'ai commencé en fait par jouer dans une pièce avec Artus qui s'appelle Duel à David et Jonathan. Et puis ça m'a donné un peu goût à ça. Donc c'est vrai que depuis quelques temps, je continue la télé avec Arthur, mais je fais aussi d'autres choses en plus.
Tu t'étais essayé à la série aussi. Je me rappelle, oui. Miko et Cartman ne foutent rien.
C'est vrai. C'était un ovni cette série, mais c'était génial. On s'était éclaté. On avait tout tourné avec nos petits moyens. Et maintenant, je peux te le dire, parce qu'on l'a jamais vraiment dit, mais on avait des tout petits bureaux et c'est Miko qui a fait beaucoup de montage dessus. On se donnait les trucs. Moi, je faisais le mix, je faisais les musiques et tout ça. Donc c'était un truc un peu familial. Et on a beaucoup, beaucoup appris en fait dans cette série. Quand je la revois aujourd'hui, il y a plein de trucs dont je suis quand même assez fier.
Nous, on a été voir en spectacle. C'était à Escale d'Humour en février, à Royan. On a beaucoup ri. Moi, je m'attendais pas à ça. Je suis venu vraiment parce que voilà, c'était toi. Parce que c'est Cartman, parce que je suis fan. Et alors là, je dois dire que là, maintenant, je suis ultra fan. Tu nous as rappelé des souvenirs assez incroyables. Parce qu'évidemment, on a tous les deux à peu près le même âge. Et il est vrai que là, tu as fait le grand écart. On est parti du porno du samedi soir sur Canal Plus au Club Dorothée.
Ouais, c'est ça. Bah, c'est ça. Et moi, tu sais, j'ai essayé un peu de me poser la question avant de faire le spectacle, de me dire, alors, de quoi je vais parler dans ce spectacle? Et puis, en fait, je me suis dit, j'ai toujours mis des perruques, j'ai toujours été mis une espèce de barrière un peu quelque part entre le public et moi, parce que à part les gens qui m'écoutaient en radio et qui me connaissaient bien, ceux qui m'ont connu que par la télé, ils m'ont souvent vu déguisé, ils m'ont souvent vu dans une bande, ils m'ont jamais vraiment entendu parler ni de l'enfance, l'adolescence et tout ça. Et en fait, je m'étais dit, si je parle de ça, si je parle de l'enfance, si je parle de l'adolescence, faut que je raconte mes expériences. Et cette expérience, elle permet aussi d'élargir et puis de parler de choses qu'on a tous connues, comme tout ce que tu viens de citer. Donc voilà, et j'avais envie un peu de faire mon Kev Adams pour les gens de notre génération, c'est-à-dire d'ouvrir un peu la boîte à souvenirs, d'en parler avec mon regard, et puis d'essayer d'emmener tout le monde dans ce truc qui était à la fois ma vie, mais aussi la vie de plein de gens finalement. Et puis aussi de faire revenir certains personnages que les gens y connaissent. Donc tout ça, ça fait que j'ai essayé de faire un spectacle qui ressemble à tout ça. Au début, c'était un peu dur à compiler. Puis aujourd'hui, je trouve qu'on a un spectacle où on s'amuse bien et j'ai l'impression qu'il y a un vrai échange avec le public. Et ça, c'est un truc qui est formidable.
Quand tu as une standing ovation comme tu as eu à Royan, ça te fait quoi?
Bah écoute, moi je suis toujours hyper ému parce que c'est pas le fait que les gens se lèvent, c'est la bienveillance qui va avec. C'est marrant parce qu'on pourrait croire que c'est un truc d'ego, tu vois, de se dire ah là il y a eu une standing ovation. C'est pas vrai, c'est un truc qui va beaucoup plus loin que ça. C'est un truc qui est comme des potes qui te disent à la fin de la soirée, qui te viennent te serrer la main en te disant putain merci, on a passé une super soirée. Voilà. Donc moi ça me va droit au cœur.
Alors il y a Divorce Club aussi, une aventure incroyable, c'est le nouveau film de Michael Youn avec Arnaud Ducré, Caroline Anglade, François-Xavier de Maison, où tu fais une petite apparition là aussi. Ouais. Et c'est pas la première au cinéma.
Non, alors justement, c'est marrant parce que je peaufine un peu, tu vois, le cinéma c'est un truc un peu toujours un peu compliqué, surtout quand tu viens de la télé et tout ça, t'as plutôt des réflexes de sketch en fait. Et là, j'avais envie, même dans cette petite apparition, d'essayer de faire un personnage un peu authentique. Et c'est ce qu'on a essayé de faire avec Vincent de Zania qui est dans la scène avec moi, et même avec Arnaud et tout ça, c'est d'essayer de pas non plus faire un personnage qui soit trop en couleur, mais en même temps qu'il soit quand même un personnage un peu caricatural. Et donc on a placé le curseur à cet endroit-là. Et la première fois que j'ai vu la scène et que j'ai entendu la salle rire, Franchement, j'étais hyper heureux. Quand t'entends des rires sur ta scène au cinéma, c'est que t'as vraiment réussi à emmener les gens dans ton délire, quoi. Et puis c'est vrai, faut dire quelque chose, c'est que déjà le film est vraiment cool. Enfin, vraiment, moi, en le découvrant, parce que moi j'avais tourné très peu dedans, je me suis éclaté et tout. Et puis c'est un vrai film de potes. C'est-à-dire, il y a voilà Vincent, Arnaud, Nickel, François-Xavier, Youssef Hadji. Enfin, tout le monde, on se connaît tous.
Puis la piscine sur nous, tout le monde se jette dedans. C'est la marque de fabrique de Nickel, quand même.
Ça, c'est vrai, il y a la piscine pour ceux qui regardaient le Morning Live, ils seront pas perdus. Mais c'est un vrai film de potes. Moi, par exemple, il y a des gens que j'ai rencontrés sur le tournage et qui que j'adore aujourd'hui, tu vois, comme Caroline Anglade ou Ornella Fleury, même Benjamin Biolay, qui est pas du tout dans notre d'habitude, dans notre sérail. Je peux te dire que c'est un mec, c'est vraiment un mec en or, quoi. Donc, je suis hyper fier d'être dans ce film. Il y a d'autres petites choses que j'ai tournées qui vont sortir après, notamment un film avec de Douglas Attal qui s'appelle Comment je suis devenu un super héros. Ou bon, j'aurais aimé faire un super héros, mais malheureusement, je fais un flic. J'ai plus une tête de fonctionnaire que de super héros. Mais je suis hyper hyper fier de ces deux films qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. L'un qui est une pure comédie dans la pure tradition de la comédie française, et l'autre qui est un truc un peu plus barré, où il y a Benoît Poelvoorde et Leïla Bekhti en super héros, qui est un truc assez incroyable. Voilà.
Des rapports encore avec Coé?
Écoute, j'ai été voir son spectacle à Paris, et puis oui, de temps en temps, on se croise. Nos bureaux sont pas très loin les uns des autres, donc parfois on se croise, on va manger au même endroit et tout.
T'as nostalgie un peu des années de la méthode Coé, où tu nous as fait tant faire rire tous les jeudis soirs?
Bah écoute, c'était des années incroyables. Moi, je me suis beaucoup amusé. C'était un peu une période aussi d'insouciance et tout ça. On découvrait tous la télé, la radio, tout en même temps. On savait pas trop si ça allait durer, donc on faisait un peu n'importe quoi. Moi, je suis très très heureux aujourd'hui quand même dans ma vie personnelle, ma vie professionnelle et tout. Donc, j'aurais pas forcément envie de retourner dans le passé aujourd'hui, mais en tout cas, vraiment vraiment vraiment, je remercie Coé d'avoir eu la bonne idée de créer cette équipe de radio de télé, parce qu'on s'est vraiment éclaté, quoi. Enfin, vraiment, on s'est amusé pendant des années. Bah, je crois que toi, tu nous as vu en plus suivi sur certaines dates et tout ça. Tu peux témoigner, c'était pas du faux, quoi. On était vraiment potes et dans la vie et hors antenne, enfin et à l'antenne et hors antenne. Et ce qui était génial, c'est d'aller avec tes potes, de faire des émissions avec les potes que...
À 6h du matin.
À 6h du matin.
Parce que vous nous avez fait lever des fois 4h pour aller vous voir en direct. Et ça, c'était juste énorme de vous voir avoir parfois, une patate pareille à cette heure-là.
Parfois, à 7h, on était déjà presque en état d'ébriété parce qu'ils nous faisaient boire des trucs locaux, genre de la liqueur, de je sais pas quoi. Tout. Des fois, à 7h, on était cuits. Mais voilà, c'était une vraie bande de copains. Ça a duré presque 10 ans et franchement, on s'est beaucoup amusé. Et c'est vrai qu'il y a un lien un peu particulier avec les gens qui nous suivaient à cette époque-là. C'est-à-dire les gens qui nous ont suivis, on a gardé ce truc un peu de, comme un peu des copains de fac, tu vois. Voilà.
Eh ben, en tout cas, reste dans le présent avec nous, puisque là, on va te voir dans Divorce Club. Ça sera donc le nouveau film de Michael Youn. Et puis, bien sûr, on te retrouve sur scène en tournée dans toute la France. Exactement. Après avoir fait ton escale d'humour à Royan. Merci à toi.
Merci beaucoup et à très vite. Merci pour ce bon moment.
Et croisons mon expérience, tu vas perdre tous tes amis aussi.
Ne m'appelle plus, hein. C'est pas parce que t'es en train de sombrer que tu dois m'entraîner avec toi, sois pas égoïste.
On va se consoler ensemble, je m'ennuie dans ma grande baraque.
Dis-moi que t'as pas envie de vivre ici.
Je crois pas que tu mérites de te faire plaisir après le traumatisme que tu viens de subir, là.
Bah c'est sûr que la séparation était dure.
Je parlais du mariage.
Je vais pas faire semblant d'aller bien, je vais pas bien.
Ben, t'es tombé de cheval, ça arrive au meilleur. Mais il faut que tu te remettes en selle direct, sinon tu feras du poney toute ta vie.
Et voilà notre spécial Divorce Club qui se termine dans un instant. Bruno Morin également sera avec nous pour parler bons produits régionaux fabriqués en Bretagne. Et Olivier Lacheneau également, le concepteur des Campings Paradis, sera notre invité. Alors surtout ne bougez pas, la dernière partie de Chut, on écoute la télé, c'est tout de suite.
Bouge pas, bouge pas, Chut, on écoute la télé revient dans un instant. A tout de suite. Chut, on écoute la télé, le talk show radio.
Allez, on continue dans Chez Ton Écoute la télé à se rapprocher des vacances tout doucement. Eh bien oui, pour notre avant-dernière émission de la saison, eh bien on va vous parler vacances en France et des vacances camping paradis. Bah oui, c'est bien en lien évidemment avec notre émission parce que le savez-vous, maintenant vous pouvez aller passer vos vacances dans un des 12 campings paradis à travers la France. Et c'est Olivier Lacheneau qui a monté ces vacances camping paradis justement qui va nous en parler. Bonjour Olivier.
Bonjour, enchanté.
Merci d'être avec nous Olivier. Première question que j'ai envie de vous poser Olivier, alors comment est né ce projet de vacances camping paradis, de tout simplement habiller des campings aux couleurs du camping paradis, de s'imprégner évidemment de tout ce qui a fait le succès de la série, des décors, de l'arche d'entrée jusqu'à Fiesta Boom Boom évidemment pour tout le monde?
Mais oui, en fait, c'était tout simplement l'envie de faire partager des choses aux gens. C'est vrai qu'il y a l'inspiration de la série qui était clé et que les gens retrouveront dans chacun de nos établissements. Mais c'était surtout de valoriser des établissements dans lesquels, finalement, les valeurs des campings paradis étaient déjà représentées. Il n'y avait pas de bannière, il n'y avait pas de marque, il n'y avait pas de choses comme ça. Mais finalement, il y a en France des dizaines de campings, entre guillemets, qui étaient déjà paradis sans le savoir. En réalité, le fait d'amener ce supplément d'âme, cette scénographie et l'ensemble des éléments qu'on amène, de programmes d'animation, notamment avec avec notre école qu'on a créée, qui s'appelle l'école de la Camping Paradis Academy, amener cette âme en supplément de propriétaires qui sont déjà, finalement, qui fonctionnent déjà comme dans la série, comme dans le camping, en fait, être proche de leurs clients. Donc, on a envie de fédérer l'ensemble de ces campings pour proposer une offre qui soit, qui permette aux gens de passer des vacances en tout sympathique et dans le partage.
Alors, je crois vraiment que la particularité des campings que vous avez choisis pour représenter ces campings paradis doivent répondre à une charte bien précise, par exemple, ne doivent pas être des campings trop grands ou appartenir à une grosse chaîne. Vous voulez quelque chose qui soit familial, qui appartienne à des vrais propriétaires, un peu comme Tom, finalement, dans la série, que ça soit vraiment des campings qui appartiennent peut-être à des générations de famille, hein, quoi.
Exactement, parce que moi, j'ai eu la chance d'avoir un père qui m'emmenait tous les ans un mois au camping. Et j'ai connu ça enfant, plus jeune, et j'avais envie de renouveler ça. C'est en fait tous ces lieux dans lesquels on vient partager avec d'autres clients, avec les propriétaires des campings, avec les équipes d'animation, partager des bons moments, une espèce de colonie de vacances collective, à la fois pour les adultes et pour les enfants. Et donc on avait envie de fédérer tous ces gens-là autour de cette bannière Camping Paradis qui était très représentative déjà de cet esprit.
Oui, d'ailleurs, si vous voulez voir, hein, on a été visiter le camping paradis de Gers-sur-Mer. On a fait une petite vidéo. Vous pouvez la revoir sur notre page Facebook. Chut, on écoute la télé. Vous verrez un petit peu à quoi peut ressembler, eh bien, ce camping paradis, par exemple, du côté de la Vendée. Mais en Nouvelle-Aquitaine, nous ne sommes pas en reste, hein, puisqu'on peut retrouver, par exemple, deux campings paradis du côté de la Dordogne ou encore dans les Landes.
Eh oui, exactement. Donc, on a deux campings qui sont en Dordogne, qui sont vraiment chouettes. Le Loucastel, l'Escapade. Et puis ensuite le camping Midi-Pyrénées, hein, qui est à Montrégeau, des caractères très différents et en même temps très proches, et avant tout axés sur le plaisir de recevoir des touristes, le plaisir de recevoir les clients et de bien les accueillir, de leur faire passer une super semaine, une super quinzaine.
Alors moi, ce que je suis curieux de savoir quand même, Olivier, comment vous avez eu cette idée? À quel moment c'est intervenu? Vous vous êtes dit, tiens, si on faisait ça?
Bah, en réalité, on voit qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de bons campings en France. Vous savez, il y a 8000 campings en France. C'est énorme. Partout sur le territoire, ça représente plus de 900 000 emplacements. Je suis pas sûr que ça parle à vos auditeurs, mais en réalité, c'est la capacité à recevoir 5 millions de personnes par soir d'été quand tout le monde est ouvert. Donc, c'est énorme. Et la diversité de ces campings est extrême. Et donc, l'envie, c'était de se dire, je dois regrouper des gens sous une bannière commune qui ont des valeurs communes. De façon à ce qu'on sache faire la différence entre tous ces campings qui s'ensemblent un petit peu. Et donc, l'idée, c'est de trouver des propriétaires de campings qui aient envie, un peu comme Tom, vous parliez, vous citiez Tom tout à l'heure et ses équipes dans la série, et bien, qui aient cette même envie de partage, cette même envie de convivialité tous ensemble.
Alors, c'est ça qui est drôle, c'est que chaque camping que vous allez avoir va avoir évidemment son Tom local, hein, bien évidemment, mais surtout, c'est que Laurent Ornac est l'ambassadeur, hein, de ces vacances Camping Paradis. Et bon, cette année, évidemment, crise du Covid oblige, il n'est pas dit que l'année prochaine, en 2021, eh bien, l'équipe de la série fasse quelques petits tours dans les Campings Paradis. Hein.
Ben, je pense qu'on arrivera à ça. Laurent Ornac, en fait, c'est très sensible, en fait, ça fait des années, et je pense qu'il pourrait en témoigner, ça fait des années que les gens lui disent, mais où est-ce qu'on peut y aller? Quand est-ce qu'on peut y aller? En fait, finalement, les gens voient cette série, qui est une série bon enfant, qui est une série familiale, qui ressemble beaucoup, finalement, à la clientèle du camping traditionnel. Et en réalité, Laurent Ornac a été très séduit par cette idée. On est très fiers aujourd'hui qu'il nous accompagne dans cette aventure.
Et je crois que l'aventure ne fait que commencer, parce que si 12 campings sont estampillés Camping Paradis cette année, l'année prochaine, c'est peut-être une quarantaine qui pourrait venir vous rejoindre sous les bannières du Camping Paradis et vraiment, eh bien, multiplier les possibilités de venir passer ses vacances au Camping Paradis, tout simplement, mais dans d'autres régions de France encore qui ne sont pas encore couvertes aujourd'hui.
Exactement. C'est notre ambition, c'est de fédérer tous ces propriétaires de camping qui ont cette philosophie, qui ont cette envie de partage, et de les amener sous la bannière Camping Paradis, d'y amener la scénographie. Vous parliez tout à l'heure du Porsche, de la voiturette, et de l'ensemble qui fera plaisir aux gens, qu'ils soient amateurs de la série ou pas. D'ailleurs, hein, on a énormément de clients en ce moment. Ils viennent d'arriver, là, on est début juillet. Tout l'ensemble de nos campings sont complets. Il y a des gens qui sont venus parce que c'était Camping Paradis, des gens qui n'avaient pas trop à quoi s'attendre, qui sont pas forcément fans de la série, et qui retrouvent justement cette valeur assez universelle du partage et des bons moments tous ensemble, et qui se reconnaissent parfaitement dans ce qu'on fait. Donc j'espère qu'effectivement, l'année prochaine, on sera une quarantaine, et puis pourquoi pas un peu plus les années suivantes.
Olivier, comment a réagi Jean-Luc Azoulay à cette idée?
Très enthousiaste en réalité. Et en réalité, ils avaient eux-mêmes, évidemment, en tant que producteurs de la série, beaucoup de contacts avec des gens qui leur parlaient régulièrement de Camping Paradis. Ils ont tout de suite compris que ça pouvait être une excellente idée. Donc, ils ont adhéré très vite au projet. Ils sont très actifs, d'ailleurs, très présents. Et c'est une grande chance pour l'ONA d'être accompagné par des professionnels de ce type. Et non, Jean-Luc Azoulay est quelqu'un de créatif et qui a tout de suite compris les bonnes ondes de ce qu'on souhaitait faire.
Et moi, j'irais même plus loin dans l'histoire. Et j'en toucherai quelques mots à Jean-Luc aussi, mais ce qui serait drôle, c'est maintenant dans la série, eh bien, de faire que Tom, en fait, monte cette franchise, et pourquoi pas, eh bien, aller tourner des épisodes de Camping Paradis dans certains des campings, justement, de la franchise. Ça serait chouette, ça aussi.
Ah, j'adorerais ça. J'adorerais ça. Après, c'est un peu compliqué. En tout cas, sur le épisode de cette semaine, eh bien, sachez que notre future mascotte va apparaître quelques secondes à l'écran. Donc ça, c'est une avant-première. Et cette apparition de quelques secondes va donner naissance dans les semaines qui viennent à notre future mascotte qui sera déclinée en peluche et en mascotte dans lequel on aura évidemment tout un tas d'activités, notamment pour les enfants qui sont déclinés. Donc, non, Jean-Luc Azoulay et ses équipes sont parfaitement ouverts, adorent cette idée, nous suivent de très près. Et moi, je suis très optimiste dans la capacité à créer plein de choses ensemble.
Eh bien voilà, l'aventure ne fait que commencer. En tout cas, pour les renseignements, eh bien n'hésitez pas à aller sur le site campingparadis.com, hein, les vacances Camping Paradis. Vous retrouverez notamment eh bien les 12 campings pour cette année, pour cette saison. Et il reste peut-être quelques places à droite, à gauche, hein, pour une semaine, voilà, fin août par exemple, ou d'ici la fin juillet, peut-être de dernière minute. N'hésitez pas, en tout cas, à contacter les campings directement ou à vous rendre sur le site. Merci Olivier d'avoir été avec nous.
Un grand merci à vous.
Et puis à bientôt, à très très vite.
Au revoir.
Et on va terminer l'émission aujourd'hui Chut, on écoute la télé en mettant en avant eh bien les producteurs de nos régions. Et ça tombe bien puisque aujourd'hui on va mettre en avant les desserts Marie Morin par l'intermédiaire justement de Bruno Morin qui est notre invité aujourd'hui. Bonjour Bruno.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Alors je suis très heureux de vous avoir Bruno parce que moi je suis déjà un grand fan des desserts Marie Morin qui sont des desserts aujourd'hui qui sont fabriqués du côté de la Bretagne qu'avec de bons produits. Et c'est ça qui fait la différence. Je peux vous dire que quand on les adopte, c'est pour un sacré bout de temps Bruno.
Bah écoutez, déjà merci pour votre invitation et pour l'interview. Oui effectivement, bah écoutez, c'est simple, nous sommes PME à côté de Saint-Brieuc et puis bah, notre motif c'est de faire des produits qui soient différents, qui soient bon, comme à la maison, avec des ingrédients simples et puis surtout avec des producteurs locaux. On essaie d'aller chercher la matière première le plus près possible de notre base pour justement mettre en avant nos producteurs.
Bruno, comment est née Marie Morin? Quelle est l'histoire un peu de cette entreprise? Racontez-nous.
Alors Marie Morin, c'est simple. Hein, Marie Morin, c'est maman. Donc il n'y a pas d'entourloupe. Hein, ce n'est pas qu'une marque commerciale, c'est aussi ma maman. Alors l'origine de cette marque, c'est simple. Hein, c'est mon père, au travers de différentes expériences qu'il a eues dans sa carrière professionnelle, avait rencontré des agriculteurs, des producteurs fermiers en Normandie. Et puis ben il a décidé de devenir grossiste. Donc voilà, il a vendu des produits fermiers. Et des produits différents, c'était en 1987, ça. Et donc voilà. Et puis ces gens-là lui ont coupé l'air sur le pied, ils ont été voir d'autres grossistes, et on s'est retrouvé en frontal avec des gens qui avaient d'autres moyens. Moi, je me rappelle, à l'époque, on avait deux camions, et on prenait les commandes avec notre papier derrière l'oreille, et commandes à la Chine dans les magasins. Et donc, c'est comme ça que l'aventure a commencé. Il a décidé de fabriquer ses propres produits. Et c'est là que Marie Morin est arrivée sur les marchés.
Alors, je crois qu'aujourd'hui, le produit phare, c'est quand même la mousse au chocolat.
Ouais, la mousse au chocolat, c'est la recette de ma grand-mère. C'est simple, hein, c'est du beurre, du chocolat et des œufs. C'est une recette facile, pleine de gourmandise. Bon, il y a pas de l'air dedans. Hein. Les blancs sont battus en neige. Vous allez voir, c'est vraiment une méthode traditionnelle. On a vraiment un vrai produit avec des vraies valeurs et avec du goût. Quoi. On a quelque chose de très très sympa en bouche.
Alors évidemment, sans trahir de secret, oui, c'est quoi en fait ce secret pour arriver à nous faire une mousse au chocolat aujourd'hui qui soit meilleure qu'une mousse au chocolat faite maison? C'est un sacré challenge à relever quand même, ça, Bruno.
Oui, alors dire qu'elle est meilleure que celle de la maison, je n'ai pas goûté de des mousses au chocolat cette maison de la France entière, mais je sais que la nôtre est relativement appréciée pour justement ce petit goût salé aussi, puisqu'on a du beurre salé dedans, pour sa texture qui est à la fois généreuse, légèrement aérée. Voilà, c'est là quand je vous dis qu'on mange pas l'air, hein, et on a vraiment un produit qui a du comment dire, la texture, quoi. Il y a vraiment quelque chose, quoi. On mange quelque chose d'assez pas consistant, mais assez léger, assez fluide et qui fond en bouche, donc c'est vraiment très très bien. Puis voilà, on a un chocolat de 55% de cacao qui a beaucoup de pep, qui vibre un peu en bouche, c'est vraiment top, quoi. Faut savoir que toutes les recettes qui sont créées dans notre entreprise, hein, c'est mon frère qui les met en place maintenant, parce que au niveau de la structure, on est tous les deux gérants de la société. Moi, j'occupe plus de la partie commerciale et logistique. Et lui, il est cuisinier pâtissier. Il a cette compétence-là. Donc, il met au service d'entreprise, ben, justement, des goûts un peu différents. Il fait plein de tests. Il apporte beaucoup de choses. Et puis, la partie dessert, c'est lui qui a été sur la création, sur la recherche et développement. Ouais.
Alors, il y a deux nouveautés, hein. C'est le café qui est mis principalement à l'honneur parmi les nouveautés du printemps. C'est la crème au café, ouais, de Colombie, et puis le tiramisu, évidemment, le célèbre dessert italien revisité, oui, by Marie Morin.
Tout à fait. Alors, c'est un tiramisu sans alcool avec une mascarpone onctueuse. Ça fait une 53% de matière grasse. Donc, c'est vraiment quelque chose de très, très, très dense aussi. On triche pas, quoi. Dans la matière, c'est comme pour la mousse au chocolat, c'est pareil, quand vous l'avez en bouche, on triche pas. Il y a quelque chose, il y a du coffre dans ce tiramisu. Et dans notre crème café, c'est pareil, on a choisi cette appellation café de Colombie, parce que aussi, là aussi, on a vraiment quelque chose en bouche qui explose, et c'est vraiment top, quoi.
Et on peut retrouver évidemment, eh bien, une qualité de dessert incomparable. Vous pourrez retrouver par exemple des clafoutis aux cerises ou encore des financiers à l'orange. Vous pouvez retrouver aussi des îles flottantes, des crèmes caramel. Vous avez vu, hein, Bruno, hein, je connais toute la gamme.
Oui, je vois ça, très bien. Ce ne sont que des recettes simples. Hein. Quand mon frère fait une recette, hein, il s'imagine à la maison. Voilà. Donc d'ailleurs, on n'avait pas de labo avant, hein, pour faire nos recherches et développement. Pour faire la création de nos produits, il faisait ça dans sa cuisine, et puis avec les ingrédients qu'il trouvait dans sa cuisine, il ouvrait ses placards. Forcément, il avait une idée directrice au départ, mais après, avec du chocolat, des œufs, avec de la crème fraîche, avec une préparation de fruits, avec tout ce qu'on peut trouver à domicile, il essaie de créer des recettes. Et c'est comme ça que c'est parti. Et c'est comme ça qu'on travaille aussi, et qu'on continue à travailler. C'est aussi ça l'esprit Marie Morin.
Alors moi, je vous invite évidemment à aller sur le site mariemorin.fr, hein, où vous pourrez retrouver évidemment tous ces délicieux desserts. Trouvez également le point de vente près de chez vous qui vous permettra de retrouver ces produits. Mais par exemple, on peut les retrouver dans tous les Leclerc de Bretagne, mais aussi dans tous les Super U et Hyper U de notre région, notamment en Nouvelle-Aquitaine. Vous pouvez retrouver également dans les magasins Auchan. Donc voilà, il y a quand même de quoi évidemment pouvoir retrouver vos produits un petit peu partout sur notre région Nouvelle-Aquitaine. Hein.
On est présent un peu partout maintenant. Ouais.
Alors, les honneurs du 13h, hein, on va pas se quitter sans en parler, évidemment, quand même. Les honneurs du journal de Jean-Pierre Pernaut. Ça, c'était beau quand même, hein, il y a aussi quelques semaines.
Oui. Ben, ça, c'était une grande fierté. Alors, l'enregistrement avait été fait juste avant le Covid. Donc, on a dû passer. On devait passer 15 jours après l'enregistrement. Et puis, finalement, le Covid est passé par là. Et on a été un peu surpris parce qu'on nous a prévenu 5 minutes avant. Mais c'est vraiment top parce que c'était un reportage qui montrait bien les valeurs de l'entreprise. Moi, je suis super satisfait par rapport à l'image que ça a pu dégager, et encore plus sur le fait que ce soit mes parents qui clôt ce reportage. Donc, parce que mes parents, on n'en parle pas beaucoup. C'est vrai qu'on entend beaucoup Eric et moi au niveau de l'entreprise, au travers des différentes interviews qu'on peut faire. Mais c'est rare de voir mes parents justement mis en avant. C'est eux les créateurs, c'est eux qui ont démarré l'aventure, et c'est grâce à eux si on en est là actuellement. Moi, j'ai trouvé ça vraiment top.
Et c'est le bel héritage que vous faites perdurer en nous faisant profiter, évidemment, de ces succulents desserts. Merci, Bruno, d'avoir été avec nous. Merci de nous accompagner aussi sur certaines de nos radios tout au long de l'année. Et puis, voilà, n'hésitez pas, un petit tour sur également, la page Facebook officielle Marie Morin. Vous trouverez plein de petits trucs, des astuces. Et puis, en même temps, peut-être des bons plans, voilà, avec des réductions, des choses comme
ça.
Voilà.
Des recettes. Adaptées de nos produits. Vous allez voir, c'est top.
Exactement. Et puis, voilà, tous les renseignements donc sur mariemorin.fr. Merci Bruno et à très bientôt.
Merci à vous. Au revoir.
Lundi prochain dans Chute, on écoute la télé.
Et on va se retrouver lundi prochain pour la dernière hebdo de la saison avant une pause bien méritée de se retrouver ensemble lundi 31 août. En attendant lundi prochain, on va revivre ensemble les meilleurs moments qui ont fait de cette saison une saison magique et inoubliable. Alors de nombreuses surprises, je peux vous dire, vous attendent, ne la ratez pas. Lundi prochain donc dans Chute, on écoute la télé, spécial best-of.
Retrouvez toute l'actualité de votre émission en vous connectant sur notre site onécoutelatélé.com ou sur notre page Facebook Chut, on écoute la télé.
Sans oublier nos applications iPhone et Android, Chut, on écoute la télé. Quant à moi, je vous retrouve demain, 12h30 sur RCM pour la quotidienne. Quant à l'hebdo, eh bien, elle fait son retour lundi prochain à 14h pour votre plus grand plaisir. Sur ce, je vous souhaite une très très belle après-midi à l'écoute de nos programmes. À demain.
Chut, on écoute la télé. Avec votre espace culturel Leclerc de Barbezieux, votre référence culturelle en Sud-Charente.
Chut, on écoute la télé. Avec Langélis, votre maître artisan glacier en Charente-Maritime, élu saveur de l'année 2018. Vos points de vente en Charente-Maritime sur langélis.com. Vente sur place également à fond couverte.